Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour le bon temps de louange qu'on a, Seigneur.
Oui.
Ça nous rafraîchit, ça nous restaure, ça nous fait du bien. Puis, Seigneur, aussi ta parole nous fait du bien, puis tout ce que tu vas nous communiquer comme idée pour nous renouveler dans notre intelligence sur certains points que tu veux nous montrer. On masse entre tes mains afin qu'on soit attentif, qu'on comprenne ce que tu as à nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia! Le titre de mon message, c'est un verset, c'est basé sur un verset, mais le titre comme tel, c'est la persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire, mais à bien faire quoi? On va avoir des idées selon des versets qu'on va comprendre, qu'on va lire, mais on va comprendre là-dedans que des fois, ça peut être mal interprété, qui nous fait donner un axe, une marche dans notre vie qui s'en va pas à la bonne direction. Parce que persévérer à bien faire, c'est un mot qui est quand même large. On le sait que le mot persévérer, ça veut dire faut que je continue. Faut que j'aille comme une endurance, une attitude de vouloir toujours aller de l'avant. Mais persévérance à bien faire, qu'est-ce que Dieu veut dire par l'idée bien faire? C'est basé sur Romains, au chapitre 2, versets 7 et 8. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire.
Romains 2, 7 et 8.
Dieu, là, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire. Ceux, en fin de compte, qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui cherchent à avoir de l'honneur, de la gloire et l'immortalité un jour?
Oui.
Sommes-nous de ceux qui veulent cela? Il y a un enlignement là, qui nous dit dans ce verset-là, il dit « réservant la vie éternelle à ceux » qui ont une persévérance à bien faire. Un autre verset qui est semblable, après ça, je vais débattre les idées. Dans Jean 5, 29, Jésus est en train de parler de la résurrection, encore une fois. 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. C'est qui va ressusciter pour la vie? Ceux qui ont fait le bien. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On va partir avec ces deux versets-là, puis on va essayer de démêler quelque chose ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui sont basées sur les bonnes œuvres. Parce que les deux versets, c'est ça que ça semble nous dire, c'est ceux qui ont la persévérance à bien faire, ceux qui ont la persévérance à faire des bonnes œuvres. Puis l'autre verset, il dit, ceux qui auront fait le bien, c'est encore des bonnes œuvres, ils vont ressusciter pour la vie. Puis pourtant, on entend, pas juste une religion, mais comme une religion populaire qu'on croit aujourd'hui, qu'on a connue aujourd'hui ici au Québec, là, la religion catholique, enseigne que tu es sauvé par tes bonnes œuvres. Ça l'enseigne que par tes bonnes œuvres, tu vas avoir la vie éternelle. Puis là, pour évaluer cela, ils disent, mais dans tout le cheminement de ta vie, tu additionnes toutes tes bonnes actions que tu as faites, c'est ça leurs assurances, là. Ils ont l'assurance d'être sauvés, en parenthèse, en autant que le nombre de leurs bonnes œuvres va être supérieur au nombre de leurs mauvaises. Puis si je regarde en surface ces deux versets-là, c'est ça que ça semble dire, que c'est tes bonnes œuvres qui vont te sauver. C'est par tes bonnes œuvres que tu vas, ta persévérance à bien faire, ta persévérance à être dans des bonnes œuvres, que ça va te donner l'immortalité puis la vie éternelle. Puis l'autre verset, ça dit, c'est ceux qui auront fait le bien, qui vont ressusciter pour la vie. Puis si tu bases ton idée dans ce raisonnement-là, comme les ceux relis, puis pas juste les catholiques pensent de même, les musulmans aussi pensent comme ça. Ils pensent d'être sauvés s'ils ont un total de bonnes œuvres plus grandes que le seul qui sont les mauvaises. Qui a la comptabilité dans sa vie du nombre de bonnes œuvres et de ses mauvaises œuvres qu'il a faites? Le savez-vous comment est-ce que, à quel compte que vous êtes rendu aujourd'hui, si c'est basé dans ce sens-là, qu'on prend ces versets-là? Hein? T'as sauté une couple de jours? Il n'y a pas un être humain sur la terre qui a réellement une comptabilité à jour pour savoir s'il est sauvé ou s'il ne l'est pas. Parce que qu'est-ce que Dieu tient, lui, comme bonne œuvre? Qu'est-ce que Dieu pense que c'est le mot bonne œuvre dans ce verset-là? Qu'est-ce que ça représente? C'est large, c'est abstrait. Bonne œuvre, c'est...
Celle qui a préparé d'avance.
Celle qui a préparé d'avance. Je vais en parler un peu tantôt de cela. Là, ça veut dire que si tu sais c'est quoi les bonnes œuvres que Dieu parle dans ces versets-là, là, tu peux avoir plus d'assurance pour savoir si tu es sur le bon bord ou sur le mauvais bord, si c'est par l'évaluation de tes bonnes œuvres. Puis ceux qui basent leur vie sur le calcul de ces bonnes œuvres n'auront jamais l'assurance d'être sauvés. Puis même que je démêle les idées, vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ces versets-là. On va vous expliquer un autre principe. Si on prend des versets dans la Bible, on les prend comme juste un verset, puis on le sort de la Bible, puis que là, je commence à expliquer ce verset-là sans tenir compte de tous les autres versets que la Bible parle. Là, je peux en inventer des nouvelles doctrines, comme...
Un texte hors contexte égale un prétexte.
Un texte hors contexte, c'est souvent un prétexte de ne pas le faire. Souvent, c'est ça. Je vais vous donner un exemple de ça, quand on prend un verset isolé, puis qu'on part une doctrine sans tenir compte du reste du texte. La Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu.
Hein?
La Bible dit qu'il n'y en a pas de Dieu. Si je prends ce verset-là, que je le sors du texte, ça déclare qu'il n'y a pas de Dieu dans la Bible. Pourtant, si on lit le verset avant et après, ça dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Mais si je prends juste la phrase, il n'y a pas de Dieu, là je fais une doctrine, la Bible vient de dire, il n'y a pas de Dieu. Oui, mais n'oublie pas de lire ce qu'il y a décrit avant et après, puis le paragraphe au-dessus, paragraphe en dessous, et aussi lire les autres versets des autres textes, puis là interprète ton idée, voir si ça se tient avec l'ensemble de la Bible. Si tu prends des versets isolés puis tu pars une doctrine sans tenir compte du reste de tout l'ensemble de la Bible, c'est là qu'on va interpréter les deux versets qu'on vient de lire, là, on va les interpréter à l'envers. C'est vrai que ces deux versets-là disent c'est par la persévérance à bien faire que tu vas être sauvé. Mais il faut que tu lises aussi l'ensemble du reste de la Bible pour comprendre c'est quoi que Dieu appelle être ce que Dieu trouve bien. C'est quoi que la Bible trouve bien? C'est quoi que Dieu dit? Ça, c'est bien. Puis ça, c'est mal. C'est quand tu as commencé à lire l'ensemble de la Bible, tu t'aperçois, mais faire le bien, c'est simple. C'est ça, que la Bible me dit aussi dans les autres versets. Parce que là, je peux partir avec l'idée, je décide ce qui est bien. Pour moi, c'est bien de faire ça. Comme, par exemple, pour moi, c'est bien d'être à côté avec ma blonde. Je l'aime. J'ai pas besoin de me marier. Donc, tu peux trouver qu'une chose est bien, ça veut pas dire que Dieu trouve ça bien. Mais suivez-vous. Là, en étudiant le reste de la Bible, on va comprendre d'autres vérités qu'il faut que tu ajoutes dans ton interprétation. Puis là, après ça, tu vas comprendre c'est à quoi que Dieu voulait dire, quoi que Jésus voulait dire dans tout cela. J'ai eu une discussion à un moment donné sur Facebook avec une dame qui marchait dans la foi catholique. Puis elle m'a dit dans sa discussion que tous les gens avaient reçu le Saint-Esprit quand ils ont été baptisés à leur naissance. Ils ont été baptisés d'eau. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Puis là, à la fin des temps, ils vont être jugés selon le bien ou le mal qu'ils auront fait sans tenir compte s'ils croyaient en Jésus. C'est ça sa pensée. C'est ça que la personne croit. Sur quoi qu'elle se basait? Ben, elle me sortait ce verset-là. La persévérance à bien faire, c'est à cause de ça que si les gens, même s'ils n'ont pas connu Jésus, mais ils ont fait du bien dans leur vie, toute leur vie, qu'à cause qu'ils ont été baptisés catholiques à naissance, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, que s'ils font du bien toute leur vie, ils vont se retrouver au ciel, même s'ils ne croient pas en Jésus. Voyez-vous qu'un verset sorti du contexte, sans tenir compte des autres versets, va nous faire sortir des doctrines qui vont à l'encontre de ce que la Bible dit? À l'encontre de la pensée de Dieu. Tu peux arriver, si tu penses ça, si tu prends juste un verset-là, « Ah, je vais me mettre à faire du bien, je n'ai même pas besoin de croire à Dieu. » Tout le monde l'a, le Saint-Esprit. Mais même qu'on arrive au jugement dernier, on va être jugé selon nos œuvres. Puis si on a fait beaucoup de bien, on rentre au ciel, même si on n'a pas cru en Jésus. C'est ça qui est la pensée de beaucoup de gens. Parce que dans ces deux versets-là que je vous ai dit, il n'y a aucun verset qui dit de croire en Jésus dans ces deux versets-là. C'est la persévérance à bien faire, dans Romains 2, puis dans Jean 5, c'est ceux qui auront fait le bien. Mais il faut faire attention. Il faut comprendre que c'est que Dieu voulait dire, que c'est que Jésus voulait dire. C'est quoi que Dieu appelle bien faire? Qu'est-ce que bien faire, selon la Bible, pour avoir l'immortalité? Qu'est-ce que Jésus a enseigné qui était bien de faire aux yeux de Dieu? Jean 6, 28. Il y a des gens qui sont venus comme ça pour poser la question à Jésus. Les gens voulaient le savoir. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est la persévérance à bien faire. Mais qu'est-ce que je dois faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est quoi bien faire aux yeux de Dieu? Ils ont demandé la question à Jésus. Puis là, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, si je sors de mon contexte du premier verset, j'ai dit tout à l'heure, la persévérance à bien faire, là je pars une doctrine avec tout ça, sans tenir compte des autres textes que Jésus a dit. J'ai juste à faire du bien, je vais être sauvé. Mais si tu lis les autres versets, Jésus, dans ses enseignements, a dit, si tu veux bien faire, si tu veux faire les œuvres de Dieu, crois en celui qu'il a envoyé. Crois en Jésus. Donc, si tu rajoutes ce verset-là, personne ne va rentrer dans la vie éternelle sans avoir cru en Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ça, c'est Jésus. Mais quand que je dis que je crois en Jésus, c'est juste le fait de dire, « Oh, je le sais que c'est le Sauveur. » Juste la croyance comme intellectuelle, comme une connaissance, on le sait. Est-ce que c'est ça que Dieu voulait dire dans ce verset-là? Est-ce qu'il y a d'autres versets qui nous diraient que plus que juste le savoir, croire, est-ce que le mot croire qui est dit dans ce verset-là, parce que si j'arrête juste à ce verset-là, juste à cette phrase-là, j'ai juste à savoir que Jésus est le Christ, j'ai juste à l'admettre, que c'est le Sauveur, puis je vais être sauvé. Est-ce que juste ce verset-là est suffisant pour faire une doctrine? Non. Puis vous allez voir dans d'autres versets que c'est pas suffisant juste de le croire intellectuellement. La preuve, les démons croient en Dieu, puis ils tremblent. Ils seront pas sauvés. Les temps de feu étaient préparés pour le diable et pour ses anges. Donc, on voit qu'on ne peut pas prendre juste un verset pour faire une idée. Il faut aussi que tu tiennes compte des autres versets. Continuons notre idée. La Bible nous enseigne que qu'on doit comme reconnaître notre état. Quand on dit qu'on croit en Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut que je reconnaisse mon état, que nous sommes dans un état de perdition, que nous sommes dans un état de pécheur. Jean 8, 24, Jésus encore qui parle, Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Là, on voit dans ce verset-là, Jésus voulait lui passer un message. C'est beau de dire, vous croyez, que vous le savez, qu'est-ce que je suis, mais si vous ne croyez pas qui que je suis, on va le voir dans d'autres versets plus loin, là, que ça prend une forme encore plus profonde, vous allez mourir dans vos péchés. Ça veut dire, tu dois être conscient que tu es pécheur, puis tu dois être conscient qu'il ne faut pas que tu meures dans tes péchés. Jésus l'a enseigné, ça. Fait que je rajoute ça dans mon total de connaissances de choses bien. On va comprendre, parce qu'on ne peut pas y aller avec un verset, il faut lire 2, 3, 4 versets pour arriver à faire une vue d'ensemble de tout ce que la Bible enseigne. Ça prend plusieurs morceaux pour faire un puzzle. Parce qu'un puzzle à un morceau, c'est pas un puzzle. On peut-tu se faire une idée d'une recette avec rien qu'un seul ingrédient? On peut-tu se faire une idée du résultat d'une recette juste avec un seul ingrédient de la recette? Ça n'a aucun sens. Minimum 3. Des fois, tu regardes la recette, il y a à peu près 12, 15 éléments, puis chaque élément que tu rajoutes dans ta recette change le goût. Si tu veux avoir la vraie, te faire une idée du vrai goût que la recette va donner, il faut que tu mettes tous les ingrédients. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut que tu sortes tous les versets pour arriver à te faire une conclusion, puis c'est la conclusion est la vérité. Un verset isolé est la vérité aussi, mais tu ne peux pas te faire une idée juste sur un verset. 1 Jean 5, 19, ça nous dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Qu'est-ce que la parole de Dieu essaie de nous dire? En partant, le monde entier sont déjà sous la puissance du malin. En partant, le monde entier est déjà perdu. En partant, le monde entier n'a pas le Saint-Esprit, n'est pas sauvé, n'appartient pas à Dieu. Le monde entier fait partie du monde des ténèbres, sous la domination du diable. C'est ça que ça dit. Le monde entier sous la puissance du malin. C'est qui ça, ce malin-là? C'est le diable et ses démons. Le prince de ce monde, c'est le diable. Ça, c'est des versets qu'on rajoute pour nous aider à comprendre. Est-ce que je suis sauvé en partant, puis que j'ai le Saint-Esprit, puis j'ai juste à faire des bonnes œuvres? Non! Faut que je comprenne mon état. C'est bien plus grave que je pense. Romains 3, 23, ça nous dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pas une seule personne sur la terre peut obtenir de vivre la gloire de Dieu par ses mérites, par sa performance, par ses bonnes œuvres, par sa manière qui semble être une bonne personne. Parce que c'est pas tes bonnes actions qui t'empêchent de goûter à la gloire de Dieu, c'est tes mauvaises. Puis ça dit, le monde entier, tous ont péché et sont privés. En partant, on est tous séparés. Ben, ça dit aussi dans un autre verset, Isaïe 59, 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Puis ça, là, on le prend sur le sens général pour tous les humains, là. Que tous les humains ont péché, ils sont privés. On est donné une position de privation, puis ça dit dans l'autre verset que c'est à cause de nos péchés qu'il y a une séparation. Mais là, il faut aussi le mettre en parenthèse, que ça ne s'adresse pas juste pour les gens du monde. Ça peut arriver même à des chrétiens qui ont été sauvés. Puis on va le voir comment est-ce qu'on devient sauvé, mais ça peut arriver qu'un chrétien est privé de sa communion avec Dieu. Comment? En pratiquant des péchés puis en les confessant pas. Même quand tu es chrétien, tu peux faire des péchés. Tu peux faire des choses qui déplaient à Dieu. Puis même quand tu es chrétien, tu peux arriver à avoir des moments où tu es comme si tu n'as pas de contact avec Dieu. Tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu ne te sens plus rempli du Saint-Esprit. C'est comme si tu essaies et ça ne rentre pas. Mais il y a quelque chose qui fait un blocage. Puis c'est le péché. Puis il y a un verset qui nous dit aussi que dans les derniers temps, à cause que l'iniquité va s'accroître, la charité du plus grand nombre se refroidira. Quand on parle de l'iniquité qui va s'accroître, c'est pas dans le monde, c'est l'iniquité dans le cœur des chrétiens qui font pas attention à leur vie de marcher d'une manière qui plaît à Dieu, puis en vivant dans des choses que Dieu n'aime pas, qui sont des péchés, que la Bible appelle péchés, à cause que le péché va augmenter dans l'Église, la charité, qui était un des fruits de l'Esprit, un fruit de l'amour, la vraie, véritable amour qui vient de Dieu, elle va se refroidir. Plus que tu vis dans des choses que Dieu aime pas, plus que ton cœur se refroidit, puis tu manifestes plus la charité. C'est pas juste pour les gens dans le monde. Les gens dans le monde sont déjà dans le péché, puis le péché les empêche de goûter la gloire de Dieu. Il faut que Dieu intervienne pour enlever ces péchés-là. Mais même dans notre vie chrétienne, frères et sœurs, il faut faire attention. Le péché peut nous ralentir, nous refroidir, puis qu'on vienne charnel, puis qu'on ne marche plus dans l'amour. Puis on va comprendre d'autres éléments qui vont se rajouter à notre idée. Qu'est-ce que Dieu veut dire par la persévérance à bien faire? Fait que là, on a une prise de conscience que le péché est dans le monde, puis le péché peut être dans notre vie, puis ça nous empêche, ça nous refroidit, ça peut nous enlever de la course de persévérance. On peut, à cause que le péché augmente, qu'on vienne refroidi, puis qu'on manque de persévérance. Qu'est-ce qui est le contraire de persévérer? Démissionner, abandonner, relâcher, déchoir de notre fermeté. Et c'est tous des versets qu'on peut lire, qu'il y a des versets qui parlent de ces idées-là. Là. C'est dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus avait aussi enseigné qui fait partie des choses qu'une personne devait vivre pour être sauvée? Jean 3:3. Fallait tout simplement qu'une personne naisse de nouveau. C'est pas parce que tu t'appelles Daniel Poulain que tu vas être sauvé. Ta personne, ton nom, n'est rien devant Dieu. Ta réputation, ton argent que tu as à la banque, tes biens, peu importe le poste, le statut social que tu as dans cette vie, ça ne te sauvera pas. Une seule chose va te sauver, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Faut que tu naisses de nouveau. Faut qu'il y ait un commencement quelque part où que tu reçois quelque chose qui t'amène au salut. Tu peux pas dire, je pratique des bonnes œuvres, puis je vais gagner mon ciel. Si tu n'as pas cru en Jésus, si tu n'as pas écouté sa parole qui disait que tu étais un pécheur, si tu n'as pas compris qu'il fallait que tu naisses de nouveau, tu n'es pas encore dans le chemin. C'est de valeur à le dire, mais c'est ça. Jésus l'a enseigné dans Jean 3:3, il dit, Jésus lui répondit à quelqu'un qui se questionnait, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Puis, ce qui est né de la chair, il est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est indispensable. Tu peux pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu sans avoir un jour reçu cet esprit-là. Parce que ce qui est cher, est cher. Les humains sont chers, puis ils mettent au monde des enfants selon la chair, puis c'est des enfants, des humains selon la chair. Ce qui est cher, mais ce qui est esprit, puis si tu nais de nouveau, tu vas recevoir l'esprit qui vient d'en haut. C'est quelque chose, une expérience que tu dois expérimenter. Sinon, même si tu as une persévérance à bien faire, si tu n'as jamais été né de nouveau, tu n'es jamais entré dans le royaume de Dieu. Mais si tu l'as été, si tu as reçu un jour l'Esprit Saint, tu fais partie de ses enfants. L'ouverture est déjà faite. Tu fais partie du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Comment une personne peut-elle arriver à recevoir cet esprit-là? C'est une autre bonne question. Dans Actes 2.38, qu'est-ce que les apôtres ont enseigné aux gens qui les entouraient pour leur dire? Faites ça, puis vous allez le recevoir, l'Esprit Saint. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'une personne peut-elle recevoir le don du Saint-Esprit? Quand elle se repent de ses péchés. Quand est-ce qu'une personne peut-elle se repentir de ses péchés?
Quand elle sait qu'elle est
pécheresse. Quand elle sait qu'elle est pécheresse. Si une personne ne réalise pas son état, elle ne peut pas se repentir. Qu'est-ce qui arrivait quand les gens étaient devant Jésus, puis Jésus leur disait la parole, puis les gens s'endurcissaient? Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour ceux qui se pensent justes, je suis venu pour les pécheurs. » Premier critère, une fois que tu as réalisé que Jésus était venu pour te dire quelque chose, il te dit que tu es un pécheur. Si tu n'es pas prêt à l'admettre que tu es pécheur, tu ne peux pas être pardonné de tes péchés. Tu ne veux même pas recevoir un pardon, tu ne l'admets pas que tu es pécheur. Premier, encore un autre critère, dans les choses à bien faire, si tu veux bien faire, reconnais ton état de péché. Ça fait partie des choses que Dieu veut que tu reconnaisses. C'est bien que tu te reconnaisses comme étant une personne pécheresse en terre. Que tu ne te penses pas capable par toi-même, par ta propre justice, tu te penses capable de rentrer au ciel parce que tu te penses bon, tu te penses beau, tu te penses fin, tu penses que ta religion est bien bonne, tu penses que tu vas rentrer par tes performances. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je vous dis, vous allez mourir dans vos péchés. Jésus ne leur a pas dit qu'il n'y en avait pas de péché. Jésus leur a dit, même si la personne ne veut pas l'admettre qu'elle a un péché, elle va mourir pareil dans son péché, puis son péché, il met une séparation entre Dieu et elle. Cette séparation-là va demeurer éternellement. À cause de ses péchés, la personne ne pourra jamais entrer dans la vie éternelle après. Parce que ses péchés vont l'empêcher de rentrer. Pourtant, Dieu propose maintenant de pardonner les péchés. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Venez à Dieu, venez à Jésus, l'accès est ouvert. Il veut que vous reconnaissiez votre état. C'est une chose qui est bien devant Dieu. Il veut que vous repentiez de cet état. Que vous lui demandiez pardon, que vous regrettiez que vous êtes pécheur. Puis que vous soyez prête à vouloir changer de vie. Parce que le mot repentance, c'est un regret, ça a le sens du mot regret, et se détourner. Si le gars, c'est un voleur, je me repens d'être voleur, puis là, il se propose encore de continuer à faire des vols, il n'y a aucune repentance. Il peut haïr ce qu'il fait, mais tant qu'il n'a pas eu l'idée d'arrêter ce qu'il fait, il n'y a pas de repentance. La repentance est au moment où ce que tu l'haïs, ce que tu fais, puis que tu veux l'arrêter de faire ce que tu fais. Il faut que tu veuilles changer de vie. Ça fait partie encore d'une bonne chose que Dieu te demande, qui fait partie des bonnes choses à persévérer. Te repentir puis vouloir changer de vie. Un U-turn. Exact. On le sait qu'il n'y a rien d'autre qui nous sauve qu'un seul moyen que Dieu a donné parmi les hommes, un seul nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Son vrai nom, c'était Yeshua, son nom original, c'était modifié avec le temps pour devenir Jésus. On croit que c'est le mot qui est dans le dictionnaire, Jésus, pour désigner le Fils de Dieu envoyé du Père, le Christ, le Oint, le Messie. Mais on le sait aussi que son vrai nom original donné par l'ange et par Marie, c'est Yeshua. Acte 4.12 nous dit, il y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. ça nous dit clairement, il n'y a de salut en aucun autre. Fait que si une personne dans sa tête a dit, je veux me repentir, parce que Dieu il veut qu'on se repente, mais je crois que c'est Mahomet qui va être mon sauveur. Je crois que c'est Bouddha qui va me sauver. Je crois que c'est dans les Krishna, je pense que dans le, c'est les autres, c'est Hari Krishna, c'est il y a quelqu'un. Ça, l'hindouiste, là, ils ont mille, au-dessus de mille dieux. Fait qu'il y a un dieu pour toutes sortes d'affaires. Le dieu, les Grecs n'ont plein. Toutes les races à terre n'ont inventé des plein de dieux. Pourtant, il y a un seul dieu et un seul médiateur qui est entre Dieu et les hommes. Un médiateur, c'est un intermédiaire. Un seul nom, une seule personne qui peut intervenir entre le ciel et la terre. Puis, il était révélé en un seul nom qui nous donne accès de recevoir le pardon de nos péchés et de pouvoir être sauvés, et c'est le nom de Jésus. Fait que si tu pars avec l'idée, la persévérance à bien faire pour obtenir la vie éternelle, qu'est-ce que ça sous-entendait? Réaliser ton état, réaliser que le Messie, c'est Jésus. Vouloir te repentir, vouloir changer de vie, à tourner vers le Seigneur pour recevoir cette nouvelle naissance, le Saint-Esprit, et après ça, confesser qu'il n'y a pas d'autre nom que ce nom-là qui nous sauve. Parce que si on commence à confesser un autre nom, on est en train d'essayer d'utiliser une autre porte pour entrer dans un autre chemin qui mène à quelque part d'autre. Puis la Bible, elle dit, il n'y a que deux chemins, deux portes, deux chemins. Pas deux chemins pour aller au ciel, c'est de valeur de le prendre comme ça. Si on isole des versets, c'est sûr qu'on pourrait arriver à dire que tous les chemins peuvent nous sauver. Mais si on prend l'ensemble de ce qui est dit dans le Nouveau Testament, la porte, c'est Jésus. Le chemin, c'est la parole de Dieu expliquée par Jésus. Et l'autre, c'est la porte large et spacieuse qui mène à la perdition. Qui mène où? À la perdition, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Il faut que tu trouves la porte, il faut que tu trouves le chemin. Puis cette porte-là, c'est Jésus. Puis ce chemin-là, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fait que la persévérance à bien faire, dans l'idée de bien faire, il faut que ça l'inclue que tu aies cru que Jésus était le Seigneur, puis le seul chemin, la seule porte, celui il faut que tu suives. On continue dans cette idée-là, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'intention de le confesser et de le croire, ne peut être sauvé. C'est, le fait de dire, j'ai commencé à l'âge de 20 ans de lire la Bible. Parce que quelqu'un d'autre me dit que m'a parlé de certaines affaires, puis ça m'a comme donné le goût de le vouloir en savoir plus. Je commence à lire la Bible. Mais à partir du moment que tu as lu, c'est une chose, mais à partir du moment que tu commences à y croire, il commence à se passer quelque chose. Tu commences à confesser des choses. Et quand tu fais la prière pour te repentir, pour te tourner vers le Seigneur, tu n'es plus gêné de confesser son nom. Tu n'as pas honte. Tu réalises pleinement que c'est ton Sauveur. C'est lui qui est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Fait que tu n'es plus gêné de confesser ton nom. Tu le crois dans ton cœur. Mais ce qui fait partie de ce que Dieu appelle bien faire, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dieu aime nous entendre confesser le nom de notre Père, le nom de son Fils, notre Sauveur, puis de parler de sa parole. Puis quand tu y crois, tu ne peux pas te retenir d'en parler, à moins que tu n'y crois pas. Mais je vous exhorte, je vous encourage à commencer à confesser que vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés. Confessez que vous l'avez reçu comme votre sauveur personnel. Confessez, ça c'est pas juste le dire quand vous êtes tout seul dans votre chambre. Quiconque me confessera devant les hommes, Je le confesserai aussi devant mon Père. Jésus a dit ça. Ça, c'est écrit dans Matthieu 10, 32. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Si tu veux bien faire, selon ce que Dieu appelle bien faire, commence donc à confesser que tu le crois en Jésus. Commence à confesser ce que Jésus a déclaré comme parole. Confesse les promesses que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Mettons, là, t'as un problème financier, qu'est-ce que tu vas confesser? Oh, ça va mal, ça va toujours mal, puis là, ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est ça qu'il faut confesser? Non. J'appartiens à Dieu. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse et sa grâce. Je n'ai qu'à chercher le royaume et la justice, et toutes ces choses me seront données par-dessus. Nous allons confesser notre foi. Nous allons confesser la parole de Dieu. Nous allons confesser que nous croyons que Jésus est là, que Jésus va agir dans notre vie. Vous allez voir, les choses vont changer. Ça fait partie des bonnes choses que Dieu veut qu'on pratique. C'est un amen à cela?
Amen.
Tant qu'on le confesse, on le croit, puis qu'on le reçoit le Saint-Esprit, puis là, on n'est plus gêné d'en parler, il y a encore plus que ça, continuer à persévérer, à bien faire. Il y a d'autres choses que Dieu veut nous enseigner dans les autres versets. Matthieu 18, 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je vais aller tout de suite à Acte 3, 19, qui est un peu dans la même idée. Pour comprendre un, ça l'aide en lisant l'autre. Quand que là, on parle de Pierre qui est en train de faire un appel à des gens, « Repentez-vous, si on l'a vu tantôt, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Les deux versets que je viens de vous dire, il y a le mot « convertir ». Fait que, au début, c'est à croire, mais le « crois en Jésus, tu seras sauvé », est-ce une phrase qui veut tout dire? Ou si, quand il a dit ça, « crois en Jésus », ça voulait aussi dire « convertis-toi ». Parce qu'il y a d'autres versets qui disent « convertis-toi ». Tu peux pas prendre juste le verset « si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, que je le crois, je vais être sauvé ». Mais qu'est-ce que ça sous-entend que je le crois dans mon cœur? Mais pour que tu comprennes ce que ça veut dire, si tu y crois vraiment, tu vas vouloir te repentir. C'est pas juste dire « je le crois ». C'est de le croire, vouloir changer de vie et vouloir me convertir. Qu'est-ce que ça veut dire « convertir » Nous autres au Canada, on marchait sur le système anglais. On marchait avec des en pied,
impérial.
En pouce, impérial, c'est le système anglais. En pied, en mille, le système impérial. En gallon, en Fahrenheit. À un moment donné, le gouvernement a décidé, on change tout ça. On va se convertir au système métrique. Là, on est tombé en mètres, en kilomètres pour la distance, en litres, puis en Celsius, puis en kilos pour le poids, des grammes. Ce que je veux faire comprendre, qu'est-ce qui se passe quand on se convertit? Avant, tous les items étaient écrits en système anglais. Puis quand on se parlait entre nous autres, on se parle avec les valeurs qui étaient, qu'on se comprenait avec, là, c'était les valeurs anglaises. Là, le gouvernement a dit, on convertit tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les items qui devaient être vendus sur le marché devaient être écrits en système métrique. Là, ils ont commencé à écrire des litres. Ils ont changé ça. C'était pas en gallon, puis c'était pas en pinte. C'était rendu en litres, puis en gallon métrique, qui était 4 litres, faire un gallon. Ça a tout changé le système, puis le kilométrage, puis le poids. Tout a été changé en d'autres valeurs. Et tout le monde a commencé à s'exprimer, même à l'école, quand ils enseignaient à l'école. Ils enseignaient avec les valeurs métriques. Puis quand le monde se parle entre eux autres, ils se parlent avec les valeurs métriques. Quand tu te convertis, Avant de venir à Jésus, tu pensais avec ta vie de péché, tes convoitises, tes désirs, ta pensée à toi que tu as appris de ton père et que tu vis selon ton entourage, selon l'esprit de ce monde, selon les esprits qui agissent sur ta vie, selon ta chair avec ses passions, puis ses désirs, puis ses convoitises, puis ainsi de suite. Quand tu viens à Jésus en te repentant, en regrettant ce que tu as vécu avant, tu sais que c'est ça que privait de la gloire de Dieu. Tu sais que c'est tout ça qui te privait de goûter toutes les bénédictions de Dieu. Tu as regretté, tu t'es détourné, tu dis, moi, je veux plus vivre cette vie-là, je veux vivre la seule de Jésus. Et là, tu te convertis. Qu'est-ce que tu fais quand tu te convertis? Tu commences à vivre en fonction des nouvelles valeurs qui sont écrites dans le Nouveau Testament. La nouvelle manière de penser, la nouvelle manière de parler, la nouvelle manière de vivre, qui va être selon l'Esprit de Dieu et selon la parole de Dieu. Les nouvelles lois, les nouveaux principes, la morale va changer, ta morale va changer. Avant, tu disais, c'était pas grave telle affaire, puis là, c'est là, tu dis, je le sais que Dieu veut pas ça. Ou je le sais que Dieu aime ça. Fait que là, ta vie, t'essayes de l'appliquer à vivre en fonction du nouveau système. C'est ça de se convertir. Puis dans ce verset-là, c'est en train de nous dire, « Repentez-vous donc, Actes 3:19, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Si une personne sait que Jésus est le Sauveur, puis qu'elle n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit dans sa vie, ses biens de valeur n'est pas encore sauvé. Même si elle y croit bien fermement que Jésus est le Sauveur, c'est de rester dans le cadrage de porte. La porte, étroite est la porte, puis un chemin. Si tu le crois en Jésus, c'est comme si tu étais devant la porte, puis si tu ne veux pas changer, mais tu restes dans le cadrage, tu ne rentres pas dans le chemin. Hein? Tu restes à la clôture, tu restes dans la porte. Tu n'es pas encore rentré dans le royaume de Dieu, tu n'es pas encore pardonné de tes péchés. C'est ça que ça dit. Si t'es pas converti, tes péchés sont pas effacés. Si tes péchés sont pas effacés, t'as pas reçu l'Esprit Saint, t'es pas né de nouveau. Si t'es pas né de nouveau, t'es même pas entré dans le royaume. T'as pas vu le royaume, t'en es pas rentré non plus. Tu fais pas partie de la gang des sauvés. Si tu t'es pas converti. Je dis pas, faut que ta vie soit parfaite. Mais faut que tu veuilles changer. Faut que tu veuilles te convertir. Faut que tu veuilles que Dieu... Parce que tu demandes l'Esprit Saint, c'est pas dans le but hein, de te donner l'Esprit Saint puis de rester comme tu étais avant. Tu reçois l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint te conduise dans toute la vérité. Là, tu es ouvert à connaître la parole de Dieu. Seigneur, révèle-moi ta pensée. Fais-moi comprendre ta parole. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Mais on va le voir d'ensuite. Il y a d'autres choses qui font partie du bien-faire que Dieu demande selon sa parole. Les premiers pas d'obéissance pour quelqu'un qui décide de transférer cette position-là, là, de vouloir se convertir, les premiers pas d'obéissance. Se convertir face au Seigneur, c'est aussi joindre une église locale, se faire baptiser d'eau. C'est des premiers pas, ça, de vouloir dire « Je veux changer de vie ». Mais dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, aussitôt qu'une personne voulait croire et voulait se convertir, et ils se firent baptiser, et ils se joignirent avec les autres chrétiens, et ils allèrent au temple, puis le nombre des disciples augmenta à 3000 hommes, après ça, t'as rendu à 5000. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire un dénombrement des personnes sauvées? C'est parce qu'ils étaient présents parmi les croyants. Ça se peut pas que quelqu'un qui veut se convertir puis qui veut continuer à rester chez eux, il se convertit à quoi? Il veut même pas entendre ce que Dieu a dit. Pourtant, dans la parole, ça nous dit, dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans la persévérance à bien faire, à partir du moment que tu te repens et que tu te convertis, tu rentres dans le nouveau chemin resserré qui mène à la vie. Premier pas à faire, c'est de te joindre à une église locale pour recevoir l'enseignement et de te faire baptiser d'eau. Ça se peut pas que tu dises que tu t'es converti si tu t'as jamais voulu être baptisé et tu n'as pas voulu aller dans une église. Ça veut dire que tu veux rester comme tu étais, donc tu n'es pas repentant. Parce que si tu es repentant, tu ne veux plus être comme tu étais. Faut que tu aies des premiers pas d'obéissance que Jésus a demandé, le baptême d'eau, te joindre à une église locale pour recevoir. Il dit, enseignez-leur à observer. Ça veut dire, si les personnes ne sont pas là, venir écouter les messages, ils sont encore à marcher dans leur volonté. Ça peut arriver une journée que tu n'y vas pas parce que tu es malade. Ça se peut pas que tu passes 6 mois sans aller à l'église. Ça se peut pas que tu passes 5 ans, 10 ans, 20 ans sans aller à l'église. Ça se peut pas. Tu es dans une voie qui n'est pas le chemin du Seigneur. Même si tu dis que tu as reçu des blessures, même si tu dis que tu as été déçu, même si tu penses que ton pasteur est trop charnel, mais ça, c'est tes excuses. Quand tu veux devenir un chrétien, c'est un suiveur du Christ. C'est ça que ça veut dire, chrétien. Puis si tu es un suiveur du Christ, tu veux suivre le Christ. Suivre le Christ, Jésus dit, suis-moi. Suis-moi si tu t'engages à suivre dans ce que Jésus va te montrer comme chemin. Puis si le diable essaie de te dire, voyons donc, là, arrête d'aller à l'église, ça donne rien, s'ils veulent ça juste pour voler ton argent, ainsi de suite. Ça, c'est le diable qui te met ça dans la tête ou tes faux amis qui veulent t'entraîner dans le chemin de perdition. Le chemin du Seigneur, c'est, tu vas dans une église, il veut que tu sois baptisé, c'est ça qu'il nous dit, puis il veut que tu te fasses enseigner. Dieu veut qu'un chrétien qui se convertit commence à suivre, aller à une église locale. Ça se peut qu'une église, que tu vas à quelque part dans une église, puis que vraiment tu te sens pas à l'aise dans cette église-là. Ça se peut. Moi, j'ai déjà été manger au restaurant, puis j'ai empoigné un repas qui n'était pas mangeable. J'ai été obligé de le payer. Est-ce que je me suis privé de nourriture tout le reste de ma vie parce qu'une fois dans ma vie, j'ai été dans un restaurant que j'ai pas aimé? Non. Si t'aimes pas un restaurant, va dans un autre restaurant, mais arrête pas de manger, fais pas un jeûne de la faim pour le reste de ta vie à cause de cela. Va dans une église locale, puis si Dieu te montre que c'est vraiment pas ta place, ben trouve une autre église. Trouve un autre moyen, un autre endroit pour aller te nourrir. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu a donné des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. C'est dans le plan de Dieu que tu entends des enseignements semaine après semaine pour te garder dans la foi, puis t'enligner dans le chemin qui fait partie du chemin qui mène dans la vie éternelle. Puis quand tu en trouves une église qui enseigne les vérités bibliques, comme je pense que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, reste là. Fais tout ce que tu peux pour l'aider à ce que cette église-là puisse aller de l'avant, parce que c'est l'église du Seigneur. C'était prévu dans son plan qu'on soit là, en train de goûter tous les bons mets préparés de semaine en semaine, des choses qui nous donnent une vie à l'intérieur, puis qui nous enlignent dans le bon chemin, puis que ça nous garde dans la foi. Ça nous aide à persévérer à bien faire. Le premier pas, c'est de joindre une église, se faire baptiser, mais tous les jours, on doit s'efforcer de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça fait encore des choses qu'on doit persévérer à bien faire. À quoi que ça va servir? C'est pour montrer au Seigneur qu'on l'aime, pour porter du fruit. Si au bout de 2 ans, on abandonne, on est bien parti, mais au bout de 2 ans, on abandonne le Seigneur, on commence à croire qu'il y a d'autres choses qui vont nous sauver, puis on rejette tout ce qu'on a appris. On va le voir dans un des derniers versets. On n'est plus en train de persévérer si on abandonne. On relâche. On retourne en arrière. Pour porter du fruit, puis pour montrer à Dieu qu'on l'aime, ça fait partie des bonnes œuvres que Dieu s'attend de chacun de nous. Jean 15, 4 à 12, je vais vous le lire rapidement. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Il dit, « Comme le serment ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, puis cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Eh, hey, belle celle-là. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, là, il y aura une grosse prêche à faire juste sur cette chose-là. Mais, il y a certains versets que je vais souligner qui font partie de comprendre l'idée persévérance à bien faire. Quelle est l'essence de ce... Quel est le centre du message de ce verset-là? Pardon? Oui, mais avant ça, il y en a un autre qui est plus au centre. Pour arriver à vivre cet amour-là entre frères et sœurs, ça prend quoi? Oui, mais comment je... Selon... Alors, lisez le début, si... Non, ben je vais vous le redire, ça va être moins long. Bon, vous devez mettre sur une piste. Car le serment ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Qu'est-ce que ça veut dire? Un serment, pour ceux qui ne savent pas, c'est une branche... d'une vigne. Une vigne, c'est là-dedans que poussent les raisins. Le serment, il dit, vous êtes les branches, vous êtes les serments des vignes, puis les fruits sont supposés pousser, mais il dit, la branche, la vigne, elle ne peut pas porter de fruits, ça ne demeure pas attaché au cep. C'est quoi le cep? Le cep, c'est le pied de la vigne. Une vigne, là, ça a une racine, c'est une plante. Ça a une racine, puis le pied, il appelle ça le cep, puis les branches poussent du cep, ça c'est les sarments. Il dit, vous êtes les sarments, puis Jésus dit, je suis le cep. Il dit, vous pouvez pas porter de fruits si vous demeurez pas attaché au cep.
Parce que il y a des fois qu'on essaie de servir le Seigneur avec les fruits qu'on avait avec, mais ces fruits-là sont pas bons.
C'est pas bon s'ils sont pas le fruit porté par ta connexion avec le cep. Dans, juste l'autre verset après, il dit, « Sans moi, vous pouvez rien faire. » Si tu veux bien faire, persévérance à bien faire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a aucune œuvre qui plaît à Dieu dans les bonnes œuvres à bien faire. Il n'y a aucune œuvre qui plaît à Dieu si elle n'est pas faite par la connexion que tu as avec le cep. Les fruits vont sortir automatiquement. Il dit, si t'es branché au cep, tu vas porter beaucoup de fruits. C'est de même que mon Père va être glorifié. C'est de même que tu vas me montrer que tu m'aimes. Mais il faut que tu demeures dans le cep. Une persévérance à bien faire, c'est une persévérance à rester connecté au cep. Si tu perds cette persévérance-là d'être connecté au cep, le cep, c'est Jésus. Ça veut dire que tu as perdu le goût de rester en contact avec l'Esprit-Saint. Tu as perdu le goût d'être en contact avec le Seigneur Jésus. Puis quand il dit, tout serment qui ne demeure pas en moi, il est coupé. Il est jeté à terre, il sèche, il brûle, on le jette au feu. Il est obligatoire, il est impératif. C'est un mot bien compliqué, là, j'en ai sorti un bon. Il est essentiel. Que si tu veux vivre dans une persévérance à bien faire pour atteindre la gloire, l'honneur et l'immortalité, il est essentiel que tu demeures en Jésus. Si tu abandonnes la foi, si tu abandonnes ton contact avec le Seigneur, tu vas être retranché. Ça fait bien des « ouch », là, j'entends bien des « ouch », des « aïe aïe », ça fait mal. Parce qu'il y en a qui croient qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Il n'y a pas juste un verset là qui dit ça. Pensez au verset des trois qui ont reçu un talent, puis celui qui en avait reçu un est allé l'enterrer. Il n'y avait aucun fruit, aucun résultat dans sa vie. Pourtant, il était sauvé, il était un serviteur. La même chose que celui qui en avait deux, puis l'autre qui en avait cinq. Puis ceux qui en avaient deux et cinq, qui l'ont mis à l'œuvre, ils étaient connectés, ils ont produit, t'as rendu à quatre, puis à dix. Tandis que lui, ce qui en avait un, il reste à un, il n'a rien produit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien produire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que ce gars-là, il a enterré sa vie à vivre pour autre chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça dit, enlevez-lui son talent, puis le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Le seul moyen de perdre les récompenses, ou perdre tout ce qui est, c'est d'avoir abandonné ta persévérance à bien faire. Puis ta persévérance à bien faire était de demeurer en communion avec le Seigneur pour le reste de ta vie. À pas changer de chemin. À pas décider que, j'ai vu un témoignage justement sur Facebook, un pasteur pentecôtiste qui était missionnaire, puis ainsi de suite. J'ai écouté sa vidéo. Le gars, il a vécu une expérience. Il s'est attaché à son expérience au point qu'il a commencé à rendre un culte à Marie. Puis après ça, il est devenu catholique. Puis là, il rend un culte à tous les saints. Il prie les morts. Comment est-ce qu'une personne croyante au Seigneur Jésus peut arriver à rendre un culte aux morts? C'est simple. Elle n'a pas demeuré ancrée en Jésus, attachée au cèpe. Ben, Jésus dit, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Tu ne peux pas penser suivre le Seigneur sans vouloir connaître ce qu'il y a d'écrit dans la Bible. Et quand tu sais ce qu'il y a dans la Bible, il faut que tu restes attaché à ce que la Bible te dit. Faut que tu y crois aujourd'hui, puis tu continues à persévérer dans cette croyance-là, dans cette foi-là, jusqu'à la fin. Lui, il a vécu une expérience spirituelle, puis il a été détourné de la Bible, puis s'est commencé à rendre un culte aux morts. C'est complètement condamné par la Bible. Pourquoi qu'il a décidé de suivre ça, pensant suivre Jésus? Il s'est égaré. Il a abandonné sa persévérance dans le vrai chemin, il a commencé à suivre autre chose. S'il ne se repent pas, c'est bien de valeur, mais il s'est égaré loin de la foi. Il est devenu anathème, puis il commence à croire qu'il y a d'autres choses qui l'ont sauvé, Marie, tous les saints, puis ses bonnes œuvres, parce que la religion catholique, c'est aussi tes bonnes œuvres qui te sauvent. Tu ne crois plus que c'est Jésus, tu ne crois plus que c'est sa parole, le chemin. Puis il a abandonné sa persévérance. C'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs, de la persévérance. J'ai accepté, il y a 30 ans, puis il me reste combien d'années, peut-être 10, 20, 30 encore. Faut que je persévère dans ma foi jusqu'à la fin, sans broncher, sans me détourner, sans, comment, en relâchant tout. Je vais voir un verset un petit peu plus loin qui nous le dit. Ce que la femme essayait de me dire sur Facebook, c'est que les gens vont être sauvés par leur amour. Même s'ils n'ont pas cru en Jésus, à cause qu'ils ont aimé et qu'ils ont fait bien des bonnes œuvres, ils vont être sauvés par leur amour. L'amour ne sauve pas personne. Tu es sauvé par la foi, à cause de l'œuvre de Jésus. Tu reçois un cadeau d'être sauvé. Tu reçois le Saint-Esprit, le pardon de tes péchés, une nouvelle vie commence, une marche en communion avec Jésus qui est resté à demeurer dans l'Esprit, puis dans le cercle, selon sa parole, pour y montrer que tu aimes le Seigneur. Mais l'amour ne sauve pas. L'amour est le résultat, à cause que tu es sauvé, tu vas vivre l'amour. Mais il y a des gens dans le monde qui manifestent l'amour sans être sauvés. Il y a des gens dans le monde qui en font des bonnes œuvres, mais l'amour ne sauve pas. C'est ta foi en Jésus qui te sauve. Puis c'est par ta persévérance dans la foi en Jésus que tu vas obtenir l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il faut que tu demeures en contact à tes chaussettes sans t'en détourner. L'idée de persévérance qu'on retrouve, selon ce qu'on vient de lire, est l'idée de demeurer en Jésus. 2 Pierre, Regardez bien ce que Pierre nous enseigne au chapitre 2, verset 20. Si en effet, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, puis s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire que des gens qui ont connu le Seigneur Jésus sont sortis du monde, puis là, ils ont été même retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus. Ils ont commencé à marcher un bon bout avec le Seigneur. Puis s'ils abandonnent, puis ils retournent dans le monde comme qu'ils étaient avant, ils disent leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Du Saint Commandement qui leur a été donné. Il leur est arrivé, selon ce que dit un proverbe vrai, le chien retournait ce qu'il avait vomi, et la truie lavée est allée se vautrer dans le bourbier. Ça, c'est dans 2 Pierre 2, chapitre 20. Dans la Bible, il n'y a pas juste un verset dans ce sens-là, il y en a plein de versets dans ce sens-là, qui nous parle à cette heure qu'on marche dans le chemin de Dieu. Persévérons. Vous avez besoin de persévérance. Persévérer à bien faire, c'est persévérer à demeurer en communion avec le Saint-Esprit, à vouloir connaître la parole de Dieu, à vouloir appliquer à ta vie la parole de Dieu. Ça, c'est ta conversion qui continue à se faire. Pour toute ta vie, tu deviennes de plus en plus comme Jésus. Puis d'une persévérance sans abandonner le sentier. Sinon, tu vas retourner comme tu étais avant. Puis pire, il dit la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il y a d'autres images de ça que Jésus avait dit, comme tu sors un esprit impur, si l'esprit y revient, puis la maison est vide, il n'y a rien que cet autre, puis il dit la condition de cette maison-là est pire que la première fois. Cette image-là est reprise à plusieurs manières. Dieu nous exhorte à persévérer. Hébreux 10, 36 nous dit, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Juste le mot persévérance, je le retrouve 37 fois dans le Nouveau Testament. Avec toutes des idées, persévérance ici, persévérance là, persévérer, persévérons, puis persévérer. La persévérance, ça dépend dans quel sujet, là, mais la persévérance dans l'épreuve produit la victoire. Si tu abandonnes, tu as manqué de persévérance, tu es retourné en arrière. Avez-vous déjà entendu que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Pourquoi qu'au début, ils disent que tu es sauvé, mais après ça, ils rajoutent que faut que tu persévères jusqu'à la fin? C'est parce qu'on peut déchoir de notre fermeté, on peut débarquer du chemin, puis on peut perdre ses promesses. Puis dans ce verset-là, ça nous dit clairement, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, qui était de demeurer en lui, vous obteniez ce qui vous a été promis. Le chemin est là. Là, si je vous lis 2 premiers versets, vous allez comprendre que différemment, parce que vous avez lu un autre paquet d'autres versets qui vous amènent à comprendre les idées. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, ils cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. C'est quoi? Ils réservent la vie éternelle à qui? La persévérance à bien faire. C'est quoi la persévérance à bien faire selon la Bible, en lisant les autres versets? C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Une persévérance qui commençait à quelque part, de reconnaître notre état, de se repentir, de se convertir, de recevoir le pardon, recevoir le Saint-Esprit, t'embarques dans le chemin, tu persévères dans ta communion avec le Seigneur, c'est là que tu portes du fruit. Sans cette communion-là, tu peux pas parler de persévérance, puis tu persévères. Persévérance à bien faire, ils obtiennent. L'autre verset, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. C'est à quoi que la Bible voulait dire de faire le bien? Qu'est-ce que la Bible appelle être bien? C'est qu'est-ce que je viens de vous enseigner. C'est pas un salut par tes œuvres sans Jésus. Ça se peut pas. Ça, c'est pas la Bible qui enseigne ça. C'est un salut par la foi et une persévérance dans la foi. Et tiens, amen à cela. Je vais faire une prière pour ceux qui se disent, ah ben moi je pense que j'ai ralenti dans ma persévérance, puis je voudrais être renouvelé, je vais refaire le point. Mais si tu t'es égaré loin de la foi, et qu'un autre t'y ramène, mais celui qui t'a ramené dans la foi, il a sauvé une âme de la mort, puis il a couvert une multitude de péchés. Il y a toujours un appel de Dieu pour ceux qui n'ont pas atteint la voie de non-retour. Dieu rappelle l'enfant prodigue, puis Dieu il est heureux de voir son enfant revenir à lui tant qu'il n'a pas atteint la voie de non-retour. Il y a un péché qui nous dit de ne pas prier. Pierre qui explique ça. C'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Mais les autres péchés, tu peux prier, mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il a atteint le chemin de non-retour. Toutes les autres peuvent revenir. Même si ça fait 20 ans que tu t'es refroidi, que tu as abandonné ta fermeté, puis t'as rôdé d'un bord puis de l'autre, t'as essayé de trouver un bonheur, ou de trouver des passions, puis des plaisirs dans ce monde, tu peux encore revenir. Tant que t'es pas mort, tu peux revenir. N'arrange-toi pas pour mourir dans tes péchés, parce que tu ne pourras pas aller où ce que Jésus est. Faut que tu sois en contact quand tu meurs. Même si ça faisait 5 minutes que tu as accepté le Seigneur, tu meurs 5 minutes après, tu es sauvé. On va faire une prière qui appelle tous ceux qui veulent se reconsacrer au Seigneur, ou ceux qui ne l'ont jamais fait, qui veulent se donner au Seigneur. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je m'approche de toi. Je reconnais mon état. Je suis pécheur. Je suis perdu. Dans mes propres capacités, je ne peux pas être sauvé. Mais je reconnais que tu es mort sur la croix, que tu as versé ton sang pour expier mes péchés et me donner accès à la vie éternelle. Je te remercie de ton salut que tu m'offres. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi de mes péchés afin que je sois purifié de mes péchés. Donne-moi ton Saint-Esprit. Renouvelle-moi dans ta présence. Viens me conduire dans ton chemin. Dirige-moi dans tes voies. Transforme ma vie. Je veux être obéissant à ta parole. Je veux marcher en communion avec ton esprit. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, de ton salut. Merci, Seigneur, de la vie éternelle que tu me donnes. Merci, Seigneur, du pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, de ton esprit qui va me conduire tous les jours de ma vie. Je te rends grâce pour tout dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.